ta boîte à musique, les zig zig zig. Zizik qui jouait 100 fois. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus.
Prochain morceau, on va le dédier à un petit garçon de 11 ans. Son père vient d'être expulsé de France, c'est un Ivoirien. Voilà, il se retrouve tout seul à Angers. Vous pouvez avoir plein d'informations sur le site de RESF, qui est juste dans le hall là-bas. Allez-y, signez la pétition. Le prochain morceau, c'est pour tous les enfoirés qui font ça. Ça s'appelle Dirty White Race.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un titre des Tugs, Dirty White Race. Et ce soir sur Jeudi Noir, Jean-Mathias va vous présenter le livre de Michael Hardimon, Repenser la race, paru aux éditions Agone en 2024 pour la traduction et 2017 pour l'édition originale.
Absolument, ouais, c'est exactement ça. Oui, donc là, c'est ce qu'on voilà, on vous propose ça comme émission de rentrée. Bouquin de Michael Hardimon, Repenser la race, Agone, donc 2024. Le livre a été publié en anglais en 2017, hein, ce que tu disais, Morane. Alors, pourquoi vous proposez ce bouquin-là pour démarrer cette année J'aurais envie de dire d'abord pour commencer qu'en fait c'est un livre qui n'avait à peu près aucune chance d'être écrit en France. Ça c'est le premier point. Je pense qu'il a très peu de chances de trouver ses lecteurs. Et il y a aussi pas beaucoup de chances pour qu'il soit discuté au moins à court terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un livre qui ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de lire. Sur ces questions de racisme et d'antiracisme, et c'est un livre antiraciste, hein, en France, et peut-être un peu plus généralement aussi voilà, en Europe ou dans le cadre de ce qu'on appelle la culture continentale, on va dire ça comme ça. Alors c'est un livre de philosophie, ça faut le dire, c'est un livre de philosophie qui s'adresse à... Alors, pas qu'à des philosophes, mais qui est construit comme un livre de philosophie, et c'est un livre de philosophie qui s'inscrit dans une tradition qui est assez particulière quand on vit de ce côté-là de l'Atlantique, puisqu'il s'agit d'un livre de philosophie analytique, et pour être encore plus précis, il s'agit d'un livre de métaphysique analytique. Donc, on est sur une
app précise. Alors, c'est un peu vite fait.
Je vais dire ça très rapide, parce que, en fait, là, sinon, on y passera l'émission. Philosophie analytique, en fait, c'est un courant très dominant dans l'université américaine et anglo-saxonne au sens large, hein, pour ce qui est de la philosophie, qui accorde une importance toute particulière au langage, à la logique, et qui pose, je dirais, comme condition à toute forme de débat philosophique, une clarification du sens des concepts que nous utilisons.
Et qui accorde aussi une grande place à l'argumentation.
À l'argumentation et à l'analyse donc conceptuelle. Alors, bon, en soi, ça vous me direz, bon, ben, en fait, tout le monde est censé le faire en philosophie ou pas. Bon, dans les faits, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a effectivement une tradition, alors qui remonte en gros au début du XXe siècle, hein, si on va dire ça, pour dire les choses assez rapidement. Il y a une différence de style qui est très très frappante, en fait, quand on lit un livre ou un auteur de la tradition analytique. C'est effectivement ce sens de l'argumentation et de la précision, voire parfois qui peut voilà, apparaître comme pour une espèce de maniaquerie, un peu de la minutie, on peut dire. En tout cas, c'est quelque chose qui est pas habituel, hein, dans le style d'écriture et dans le style de réflexion lorsqu'on a une formation philosophique, particulièrement en France, je dirais. Alors ça, c'est pour la philosophie analytique. Et ce texte-là aussi s'inscrit en plus dans un sous-courant où, en fait, voilà, une partie, hein, de cette philosophie analytique, au sens où il assume faire une recherche de nature métaphysique. Alors, métaphysique, c'est pas un gros mot, c'est pas de la magie noire, hein, c'est simplement une manière, en fait, de chercher, à clarifier le sens des concepts, ça c'est la partie analytique, de chercher en quoi et dans quelle mesure ces concepts renvoient à quelque chose de réel. Voilà, si je résume un peu les choses. Alors, ce qui fait, en fait, mine de rien, déjà beaucoup de présupposés, je dirais, quand on s'intéresse et quand on cherche à réfléchir sur cette question du racisme, de l'antiracisme, de la philosophie politique en général. En fait, c'est une tradition, du coup, qui, du moins dans les outils qu'elle mobilise ou dans les références qu'elle mobilise, laisse un peu de côté, au moins toujours dans un premier temps, des outils tirés des sciences humaines, donc de l'histoire, de la sociologie, de la psychologie. C'est pas les entrées, en fait, hein, c'est pas les entrées. Alors, ça veut pas dire, et j'ai essayé de le montrer notamment avec ce livre-là, qu'on peut pas utiliser ensuite des concepts élaborés ou discutés par la philosophie analytique dans des disciplines scientifiques, notamment dans les sciences humaines. Parce que c'est ce qui se fait, bien sûr. Mais il y a effectivement cette culture analytique qui est propre à l'université américaine et anglo-saxonne et qui existe très peu, en fait, en France. Donc là, ce livre de Michael Hardiman, là, Repenser la race, il est dans ce contexte-là. Alors, il y a ce premier filtre, je dirais, qui rend pas la lecture forcément tout de suite familière. Et il y a en plus un deuxième filtre qui est lié là aussi en fait au champ universitaire américain et à la différence entre ce champ universitaire et le champ universitaire français et européen, mais particulièrement français, c'est que Michael Hardiman réfléchit, travaille et discute dans un cadre qui est celui des cultural studies et plus particulièrement des racist studies, qui renvoie aux États-Unis à des départements universitaires en tant que tels. C'est-à-dire que ce sont des disciplines, des UV, des unités de valeur, des cours, des thèses, des revues, des colloques qui sont
tout. C'est un découpage disciplinaire.
C'est un découpage disciplinaire, exactement, que nous ne connaissons pas. En fait, hein, en France. Alors, ça ne veut pas dire que en France, on ne parle pas d'antiracisme ou qu'on réfléchit pas sur la race. C'est pas ça. Mais le découpage disciplinaire est tout à fait différent. Et alors, bon, les cultural studies au sens large ne parlent pas que de la race, mais au sein des cultural studies, il y a aussi effectivement des départements de recherche universitaire qui sont consacrés exclusivement à cette à ces questions-là et Michael Hardiman fait voilà lui travaille il est prof à San Diego en Californie, il travaille sur ces questions-là et ça veut dire que ses interlocuteurs professionnels ce sont hein, ces philosophes et professeurs en racist studies. Et ça veut dire que ça met un deuxième filtre parce que évidemment ces débats-là, en fait, dans le champ académique et encore plus je dirais culturel français, ben pour la 99% d'entre eux, en fait, on ne les connaît pas, tout simplement. Alors, donc non seulement on ne les connaît pas, mais en plus, ça a aussi d'autres effets, c'est que ces discussions académiques propres à l'université américaine et anglo-saxonne plus largement, elles produisent des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui travaillent en fait 7 sur 7, 18 sur 24 sur ces questions-là. Ils construisent voilà des catégories, des questionnements, des distinctions. Alors, je dis pas que tout est forcément bouleversant, mais ça veut dire aussi que sur la durée, en fait, ça donne des débats qui sont d'une précision et d'une rigueur qu'on ne connaît pas non plus en fait en France ni en Europe au sens plus large. Je le dis sans sans faire de l'américanisme ou de l'apologie de la philosophie analytique hein, ou qui a aussi ses limites bien entendu hein. Il y a des jeux voilà de pouvoir d'influence universitaire etc. Il y a aussi plein de déchets là-dedans. Mais quand les gens travaillent sérieusement, quand ils travaillent effectivement sur la durée, quand ils travaillent avec précision, eh ben ça a un avantage que nous on n'a pas, c'est qu'en fait ils arrivent à des conclusions qui sont en général nettement plus rigoureuses, précises et minutieuses que ce que nous on peut avoir. Je trouve que c'est le cas de ce livre. Voilà. Alors je suis sur la forme, hein, sur la forme, sur la méthode et sur la manière dont il travaille. Alors, de manière schématique, j'en viens un petit peu au fond maintenant, mais je pense que c'est important qu'en fait qu'il y ait ce contexte-là, parce que s'il y a des auditeurs qui se lancent dans cette lecture,
qu'ils soient pas surpris
là-dessus et qu'ils sachent que ça vaut la peine, voilà, qu'ils sachent que ça vaut la peine et qu'il faut s'accrocher et qu'en tout cas il faut pas s'en tenir à cette première surprise là, qui en fait a l'air de poser en fait des questions qui sont absolument pas celles qu'on a l'habitude de poser en fait quand on réfléchit là-dessus en France. Alors, pour résumer le fond et le propos du bouquin, qui lui aussi peut paraître trompeur, parce que on peut avoir l'impression que, à première vue, qu'il enfonce des portes ouvertes. Le but du livre, le titre effectivement le résume le projet du livre. Il s'agit de repenser la race. Alors, il s'agit de la repenser pas uniquement pour le plaisir de clarifier des concepts, mais il s'agit de la repenser dans une perspective antiraciste. Michael Hardiman lui-même est un racisé. Les premières pages en fait, une petite anecdote personnelle où il raconte comment effectivement c'est posé lui en fait dès l'enfance cette question de savoir ce que ça voulait dire la race. En fait, il est en balade effectivement auprès de chez lui et puis il croise trois Afro-Américains, trois gamins, trois petits Renois quoi, voilà, et qui s'adresse à lui en disant mais toi t'es de quelle couleur? En fait il est métis, Hardiman. T'es de quelle couleur? Et en fait il est interloqué, il a 10 ans et en fait il sait pas quoi répondre et en fait comme il reste silencieux en fait les trois gamins lui disent non mais t'es de quelle couleur à l'intérieur? Voilà. Et en fait, il reste du coup, ça l'arrange pas plus, c'est-à-dire qu'en fait, il sait pas répondre et que c'est, il dit, en tout cas, c'est son point de départ, que c'est le point de départ de son interrogation et de son questionnement sur ce que c'est que la race, en fait, et qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, de demander, de poser la question de la race de quelqu'un, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Alors, dans son intro, en fait, il y a un petit leurre, c'est qu'en fait, il explique que donc il se place du point de vue d'un projet antiraciste. Il s'agit de clarifier le concept de race pour se débarrasser du racisme. Et il y a un petit leurre parce qu'en fait, il annonce qu'en fait, son projet s'inscrit comme une espèce de polémique ou de discussion face à une position très répandue dans l'antiracisme qui consiste à dire que la race n'existe pas, qu'il n'y a pas de race, et que c'est en niant en fait l'existence des races qu'on peut lutter efficacement contre le racisme.
C'est ce qu'il appelle la position éliminativiste.
Éliminativiste, voilà.
On élimine un concept et le référent réel, voilà. Supposé, ouais. Mais dénoncé comme fictif.
Exactement. Donc ça, il commence son intro en disant ça, en disant que lui va discuter et conteste en fait cette stratégie-là. Il pense que c'est pas comme ça qu'il faut procéder si on veut être un antiraciste cohérent et efficace, les deux. Et que donc son livre est un livre qui s'inscrit contre les éliminativistes. Alors, c'est pas faux. Voilà, comme dirait l'autre, c'est pas faux, mais en fait, c'est un peu, je trouve que c'est un peu trompeur parce que, en réalité, son livre, les résultats les plus intéressants de son livre, à mon avis, ne se jouent pas forcément là-dessus. C'est sûr qu'il n'est pas éliminativiste et il va expliquer pourquoi on a besoin d'un concept de race. Il va expliquer pourquoi on a besoin d'un concept de race qui est un référent qui est de nature biologique. Réel. Et il va expliquer aussi pourquoi on a besoin de ce concept de race-là, que lui va essayer de construire, enfin de ces concepts de race-là, pour être précis, qu'il va construire, pour avoir une analyse du racisme social, ce qu'on appelle la racisation, dans les débats franco-français. Pourquoi on a besoin d'avoir clarifié d'abord le concept de race, pour qu'ensuite on puisse utiliser de manière efficace les analyses de racisation et se débarrasser d'un racisme pernicieux, celui que qu'on combat. Et du coup, ça l'amène finalement, j'ai trouvé, à être le plus précis, le plus fin et le plus intéressant possible, pas tellement sur la question de l'éliminativisme, parce que ça, finalement, il règle le problème assez rapidement et assez facilement, en réalité. Ça l'amène, en réalité, l'enjeu pour moi du livre, il est, en fait, dans les derniers chapitres, c'est-à-dire lorsqu'il va se positionner dans les débats autour de la racisation. Et là, en fait... c'est là qu'on mesure en fait tout l'intérêt de son travail, c'est-à-dire que par les clarifications qu'il opère et par la construction qu'il fait et qu'il propose lui du concept de race sociale, justement, ça lui permet d'être extrêmement précis, extrêmement fin sur les différentes manières dont ce concept est déconstruit dans les sciences sociales et dans les cercles militants. Voilà. Donc, pour moi, il me semble que un des intérêts du livre, l'intérêt majeur du livre, il est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire sur ce que ce travail de clarification analytique là et lexicale, je dirais, lui permet de faire d'abord pour arriver à définir un concept de racisation qui est un concept construit socialement qui soit le plus descriptif et le plus efficace possible. Voilà. Donc je le dis, pour ça fait un peu, je saute directement à la fin, mais après je vais prendre le temps d'expliquer comment il arrive à tout ça, mais il me semble que l'intérêt du livre, il est là.
Précise peut-être rapidement ce qu'on entend par racisation.
Alors, la racisation, ça consiste... Bon, ça, j'utilise le terme français. Lui utilise le terme race, le concept de race sociale en un mot. Alors, il y a aussi ça, ce jeu-là, la précision, en fait, qu'il essaye d'utiliser en distinguant les concepts, en distinguant les réalités auxquelles ça renvoie et le concept ordinaire. Il y a tout ce jeu-là, d'où un jeu d'écriture. Mais ça, c'est... Voilà, il faut s'habituer. C'est pas très difficile à comprendre à la lecture. La racisation, alors là, pour le coup, c'est un terme que lui n'utilise pas, mais qui me semble... qui me semble préciser et enrichir de manière intéressante, ça consiste à dire que les races sont des constructions sociales, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des identités collectives assignées dans une société donnée non seulement assignés à des catégories de population, mais qui sont assignés de manière à hiérarchiser ces populations et du coup à créer des discriminations, tout simplement. C'est un concept discriminant, voilà, du point de vue créateur d'injustice, voilà, et bloquant en fait l'accès aux biens et aux différents communs et biens sociaux, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est un concept qui est assez facile à comprendre. C'est l'idée qu'effectivement, les sociétés produisent du racisme de par leur histoire, de par les rapports de domination entre catégories raciales, justement, pour le coup. Donc ça, c'est pas une idée qui est en soi extraordinaire, mais en fait il va la reformuler, lui, de manière plus précise, en tout cas précise, pas plus précise, mais précise, ce qui va, du coup, lui permettre d'écarter en fait, d'autres versions, en fait, de cette idée de racisation, de manière intéressante, à mon avis. Voilà. Donc, juste avant qu'on fasse une première pause, si je résume, en fait, ce qu'on a dans ce texte-là, on a quatre concepts de race, en réalité. Hein. Il défend pas un concept, il précise le sens de quatre concepts de race. Il y a d'abord le concept de race qu'il s'agit évidemment de désinguer, ce qu'il appelle le concept racialiste de race. L'idée qu'il y aurait donc en fait une espèce d'essence biologique propre à certains individus, justifiant à la fois des traits de comportement psychologique, etc., et donc des hiérarchies et des discriminations sociales. Ça, c'est le racialisme qu'il combat, évidemment. Ça, c'est le premier concept, donc évidemment qui est là un peu tout en continu dans son livre, puisqu'il s'agit ça de désinguer ça, quels que soient les
niveaux. Ce que nous entendons par racisme, en fait.
Ce qu'on entend comme racisme, voilà. Mais qui caractérise, hein, voilà, de la manière que je viens de donner. Il y a ensuite un deuxième concept de race, qui est en fait un concept, je dirais, métaphysique, là, pour le coup, mais métaphysique ordinaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de préciser en quel sens on peut, et d'une certaine manière, on doit, conserver un concept de race qui renvoie en fait à des réalités ordinaires, à savoir en fait des différences visibles dans le morphotype qui sont liées en fait à des facteurs génétiques,
à l'ascendance,
ces facteurs génétiques s'expliquant eux-mêmes par l'ascendance et la géographie. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième concept de race. À ce deuxième concept, il en ajoute un troisième, ce qu'il appelle le concept de race populationnelle, qui lui est un concept de la biologie, hein, ce qui est un concept scientifique, qui renvoie à une réalité biologique, c'est-à-dire que ces morphotypes, ces différences morphotypiques qui ont effectivement des facteurs biologiques, et bien en fait, ils s'expliquent, oui, biologiquement, par lignées, certaines limites en fait au cercle reproductif qui ont permis la transmission de ces allèles et donc des morphotypes visibles qu'ils vont avoir. Donc il y a une réalité biologique qui est pas fondamentale, je vais y venir, qui est pas une essence non plus, mais qui existe, qui a une réalité et qui peut avoir une utilité en biologie, en médecine notamment. Et le quatrième concept de race qu'il mobilise est celui de race sociale. C'est celui qui, à mon avis, du coup, est le plus intéressant politiquement. Parce que, évidemment, c'est celui qui ouvre la discussion comment se construit le racisme, comment le déconstruire, de quelle manière, quel sens donner, etc., à ces mécanismes de racisation, etc. Donc, quatre concepts. Un concept à désinguer, qui est le concept de racialisme, le méchant, le bad concept, voilà. Ensuite, un concept métaphysique qui, en fait, permet de montrer pourquoi on a besoin du concept de race dans le langage ordinaire, voilà. Un concept biologique et un concept social.
Ok. Voilà. Bon, on va peut-être faire une petite pause avant que tu nous expliques plus en détail ce qu'est la race sociale.
Thank you.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, avec Jean-Mathias pour Jeudi Noir, qui nous présente le livre « Repenser la race » de Michael Hardiman, paru en 2024 aux éditions Agone. Donc Jean-Mathias, tu nous disais que selon Hardiman, la race, contrairement à ce qu'on peut dire en France aujourd'hui, est un concept à conserver, mais surtout à préciser, à travers les quatre concepts dont tu nous parlais juste avant, pour justement combattre le racisme et le racialisme.
Oui, alors ça, c'est la saison 1, je dirais, voilà, du projet du bouquin, c'est-à-dire le fait que il refuse une position qui est assez répandue, qui consiste à dire que si on veut se débarrasser du racisme, il faut se débarrasser du concept de race. C'est-à-dire qu'en fait, en se débarrassant non seulement du mot, mais de l'idée même de race, eh bien, effectivement, on peut progresser vers eh bien, une égalité des droits, supprimer les discriminations, les conséquences de siècles de racisme historique, social, etc. Alors, lui, il croit pas à ça parce qu'il pense que penser que les races n'existent pas est faux. Voilà, c'est pour raison, je dirais simple là-dessus, et que en fait il y a très peu de chances qu'on puisse effectivement arriver à des résultats politiques justes en s'appuyant sur une erreur. Voilà, et sur pourquoi c'est faux. Alors il faut voir en quel sens pourquoi c'est faux et en quel sens c'est faux. Voilà. Alors pourquoi ne pas on peut pas éliminer la race de cette manière-là parce que le concept de race en fait en lui-même n'a pas les conséquences discriminatoires, injustes qu'on constate et puis qui existe socialement. C'est-à-dire que le concept de race dont il faut se débarrasser, c'est un concept de race très particulier qui lui-même est vide. Voilà. C'est-à-dire il y a bien un concept de race qui est vide, c'est celui utilisé par les racistes. Et utilisé par les sociétés racistes, parce que c'est pas des individus ou des intentions ou des affects, mais il y a un concept de race qui effectivement historiquement existe, mais est vide. C'est celui de le concept racialiste de race. Alors ce concept racialiste, il essentialise ou il affirme qu'il existe des essences biologiques dans lesquelles hiérarchisées. qui permettent d'expliquer par la biologie des traits de comportement, des traits de caractère, des trajectoires historiques, à la fois individuelles et collectives, inégalitaires bien évidemment, et qui justifient donc en retour et ben, des inégalités de traitement juridique, social, éthique, affectif, etc., etc. Donc ce concept racialiste-là, en fait, il est vide. Et les présupposés sur lesquels il repose sont faux. Il prend effectivement déjà le début du livre, tout le premier chapitre assez long consiste à mobiliser en fait tous les preuves scientifiques dont on dispose pour expliquer que il n'y a pas d'essence raciale. Il n'y a évidemment pas de hiérarchie raciale, il n'y a évidemment aucune explication possible et aucune conséquence possible à tirer entre le génotype d'un individu ou d'une population et des traits de caractère, de comportement ou autre, et que au contraire, en fait, biologiquement, en fait, on peut montrer que ben justement les races ne sont pas des essences, voilà. Évidemment, ne permettent pas d'hiérarchiser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Bon, donc ce concept, ce premier concept de racialiste de race, oui, effectivement, il repose sur un certain nombre d'hypothèses qui sont fausses, et le concept en lui-même est vide. Donc celui-là, bien évidemment, il faut s'en débarrasser. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser du concept de race tout court. Pourquoi ? Parce que même si la race n'est pas une essence biologique, on peut effectivement constater, et Hardiman pense que on aurait tort en fait de nier une évidence, oui, qui est celle que y a effectivement des morphotypes répandus de manière plus que statistique, mm-hmm, en fait, au sein de populations qui permettent de déterminer des marqueurs morphotypiques visibles. Et que ce concept-là, en fait, il renvoie à une réalité. Voilà, il renvoie à une réalité, et que c'est pas en niant ce concept-là qu'on se débarrassera du premier.
Et que même l'utilisation de ce concept, ce qui se fait quand même un peu en sociologie, même en France, en tout cas c'est un débat qui a lieu, que ce concept, si on se le réapproprie de la façon dont il le fait, permet aussi d'observer la réalité plus finement et de mettre au jour des discriminations aussi plus fines, etc.
Oui et non, parce que si tu veux, à ce niveau-là, lui, l'analyse, donc le deuxième concept qu'il introduit, qui est un concept métaphysique, en fait est un concept dont il attend pas forcément grand-chose en termes d'explication ou de découverte. C'est un concept descriptif dont on a besoin pour décrire des réalités courantes. Voilà, pour ce deuxième-là. Oui. En revanche, c'est un concept sur lequel on peut effectivement avoir un engagement métaphysique, comme il le dit, au sens où c'est un concept qui renvoie à des réalités tangibles, observables. Mm-hmm. Voilà. Et on peut effectivement même aller un peu plus loin que ça, en affirmant que ces différences morphotypiques visibles, etc., elles sont liées effectivement à des facteurs biologiques, génétiques, eux-mêmes liés à une ascendance géographique particulière. Voilà. Donc ce concept-là, il est neutre et il est indolore,
descriptif
et indolore du point de vue du racialisme. Et c'est pas en se privant de ce concept-là qu'on avancera en quoi que ce soit dans l'élimination et le combat contre le racialisme. Premier point. Deuxième point, on peut aller plus loin que ça et aller chercher effectivement du côté de la biologie des substrats et des réalités biologiques et des concepts scientifiques en réalité, mm-hmm, permettant de justifier ce concept ordinaire métaphysique, notamment effectivement du côté de la génétique des populations. Alors là, c'est pareil, ces distinctions qui sont relativement fines, qui peuvent paraître un peu techniques mais qui ont leur importance, quand on raisonne en termes populationnel, on ne crée pas des types humains. On ne crée pas des types humains, il rappelle ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand la biologie raisonne en termes de population, l'idée c'est quoi ? C'est qu'en fait, elle ne crée pas d'effet de clôture ou de nouvelles essences qui seraient inscrites de toute éternité et pour toute éternité dans les individus en particulier. On a en fait des concepts qui sont en partie statistiques, qui renvoient à des réalités ADN génotypiques qui elles ne sont pas statistiques, qui sont catégoriques pour le coup. Mais en fait, on a voilà, c'est des concepts qui ont un sens en biologie, qui peuvent avoir une utilité. Alors il le dit, il y a un chapitre là-dessus. En soi, c'est pas révolutionnaire non plus, mais qui peuvent avoir une utilité, par exemple dans la recherche médicale. Mmh. Hein. Il y a deux, voilà, c'est pas le seul concept de race qui peut avoir un sens et une utilité dans la recherche médicale, mais celui-là, ce concept biologique populationnel de race, il a une utilité. Il permet, par exemple, d'expliquer certaines maladies, voilà, ou au contraire certaines résistances ou résiliences à tel ou tel, voilà. Il donne beaucoup d'exemples de ça. Bon, ça c'est pareil, c'est un champ qui est très développé et relativement connu. Mais voilà, ce concept de race populationnelle, troisième concept, donc biologique, lui, a un sens et une utilité dans le domaine de l'explication biologique et de ses applications médicales. Mmh. Voilà. En se débarrassant du concept de métaphysique de race que lui propose, et en se débarrassant du concept biologique et biomédical de race, on n'avance pas d'un pouce contre le racisme qu'il s'agit d'éliminer ou qu'il s'agit de supprimer. Mmh. Voilà. Donc on a besoin de ces concepts-là. Hein, et on a besoin de ces concepts-là parce que, en fait, ils permettent de comprendre pourquoi ces deux concepts de race, le concept de race minimaliste, là, déflationniste, comme il dit, et le concept biomédical, on va dire, biologique et médical, ou biologique avec des applications médicales particulières, sont des concepts qui neutralisent, d'une certaine manière, ce que le racialisme a, non seulement de faux, mais de profondément injuste et dégueulasse. À partir du moment où ce sont des concepts qui sont des concepts descriptifs, il n'y a pas de discrimination justifiée de quelque manière que ce soit. Et ça permet aussi, quand on dispose et qu'on clarifie ces deux concepts-là, de montrer en quoi les essences, la hiérarchie et les discriminations qu'elles justifient et le type d'explication attendue par la race, par le racisme, ne vont nulle part. En fait, ne vont nulle part, sont fausses et non avenues. Voilà. Donc ça, c'est pour les premières distinctions qu'il propose. L'enjeu, en fait, de ces deux premiers concepts-là, c'est de montrer effectivement que l'éliminativisme n'est pas vrai, première chose, et que deuxièmement, même en termes stratégiques, il n'a pas l'utilité qu'on lui prête. Il n'a pas l'utilité qu'on lui prête parce que les concepts que lui propose permettent de neutraliser, de désarmer, je dirais, ce concept de race tel qu'il est utilisé dans le racialisme. Alors, ça, c'est la partie, je dirais, la plus analytique du bouquin, au sens où là, on est sur des questions de lexique, et ça peut, effectivement, on peut discuter de savoir est-ce que c'est juste des est-ce que la précision lexicale a vraiment une utilité politique, est-ce que ça suffit, est-ce que machin, etc. On pourrait discuter de ça. Cela dit, c'est pas évident de répondre si facilement, parce qu'en fait,
une inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que le concept de race soit trop poreux et trop marqué
bien
par
sûr,
son histoire
bien
racialiste,
sûr, bien sûr.
Et que quel que soit l'usage que tu en fais, et aussi analytiquement précis soit-il, dès que tu es dans le champ de la discussion publique, c'est mort. Quoi.
Alors tu pourrais effectivement...
Tu te fais rattraper tout de suite.
Il répond à ça, lui il pense que non. D'accord. Il pense qu'en fait que c'est pas le cas. Alors évidemment on peut débattre de ça, mais il pense qu'en fait que l'éliminativisme en fait n'échappe pas en fait à d'autres problèmes qui consisteraient à dire bah oui mais vous dites que les races ça n'existe pas, mais enfin regardez mon voisin voilà il est noir voilà.
Ouais.
Ce qui est assez élémentaire en fait voilà et ce qui crée d'autres problèmes en fait qui te fait de l'antiracisme quelque chose de peu crédible en fait. Mais plus crédible au sens élémentaire du terme, si tu veux.
Genre, ah oui, c'est comme s'il n'y avait pas de noir et de blanc,
voilà.
Gna gna gna. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est pas l'essentiel de son propos, mais peu crédible. Et puis, tu peux avoir d'autres problèmes plus sérieux. Parce que, par exemple, effectivement, si le racisme n'existe pas, ça veut dire qu'effectivement, tu t'interdis aussi des explications en biologie et en médecine. Tu te les interdis. Ouais. Si t'as pas de concept de race, en fait, pour décrire tout simplement ou à utiliser quand t'as des pathologies qui sont plus développées sur tel génotype que sur d'autres, ou au contraire des résistances plus, si t'as pas de concept de race, en fait, tu l'expliques pas, tout simplement. Tu ne l'expliques pas, tu fais pas de recherche non plus, de ce côté-là. Bon, donc il y a ces questions-là. Donc ça, c'est la première, je dirais, partie du livre, premier intérêt, montrer que l'éliminativisme n'a peut-être pas les vertus qu'on lui prête et qu'en fait on peut être peut-être plus clair et plus efficace contre le racialisme avec un concept métaphysique clarifié et un concept biologique de race clarifié également.
Voilà. Ok, on va faire une pause avant de reprendre peut-être sur le concept de
race sociale. Qui est le plus important, je pense.
Et écouter un petit peu de musique. Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, pour la reprise de Jeudi Noir, avec Jean-Mathias qui nous présente le livre de Michael Hardimon, Repenser la race, paru en 2024 chez Agone. On vient d'écouter un morceau de Vampire Rodents, Subspecies. Et donc Jean-Mathias, tu nous expliquais que Hardimon cherche à repenser donc le concept de race contre la perspective un peu française éliminativisme, qui cherche potentiellement à supprimer, en tout cas à retirer du débat public le concept de race. Pour empêcher le racisme en fait. Hein. Et donc lui, Hardimon, dit que on s'empêche tout un tas de prise en compte dans la médecine, de prise en compte biologique quand même réelle de la race qui existe. Et pour combattre justement la perspective racialiste qu'on chercherait à éliminer, propose un autre concept, la race sociale, qui permettrait d'avoir une portée politique peut-être plus importante.
Ouais. Alors, petite précision juste par rapport à ce que tu as dit là. Je pense que Hardimon ne sait même pas où est la France dans son analyse. C'est-à-dire qu'en fait, quand lui, il critique ce qu'il appelle les éliminativistes, c'est-à-dire ceux qui veulent combattre le racisme en supprimant le concept de race, c'est pas aux éliminativistes à la française qu'il pense. Il y a deux mots là-dessus, ce qui à mon avis complique encore plus, je pense, la réception d'un bouquin comme ça en France, parce que c'est encore une difficulté supplémentaire. Ça, les éliminativistes que lui a en tête, ce sont des éliminativistes antiracistes américains qui en fait défendent un éliminativiste militant, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit pour eux faudrait rentrer dans le détail de ça, du chant américain, ce qui on n'aura pas le temps de faire ça, mais c'est le revendiquer la suppression du concept de race aux États-Unis, c'est pas la même chose que l'affirmer en France. Parce qu'en France, on peut l'affirmer parce qu'on est républicain et que depuis 89, on a aboli les races dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc, comme on a aboli les races en droit, et bien évidemment, dans les faits, il n'y a plus de racisme en France depuis 1789.
En théorie.
Voilà. Donc, c'est évidemment pas le cas, mais aux États-Unis, ils n'ont pas ça, en fait. Ils n'ont pas cette espèce de certitude d'éclairer l'humanité et d'avoir déjà dépassé. Voilà.
Oui, les races sont toujours indiquées sur les cartes d'identité.
Bien évidemment. Les races sont l'esclavage, etc. etc. En fait, c'est pas la même histoire. Donc, si tu veux revendiquer l'élimination du concept de race aux États-Unis, c'est pas la même chose que de le revendiquer en France. Hardiman ne connaît pas, je pense, tout simplement l'éliminativisme français ou républicain. C'est pas celui-là qui vise, hein. C'est autre chose. Donc c'est important aussi, parce que là, tout ça, en fait, c'est des malentendus possibles, en fait, hein. En France, ceux qui revendiquent l'éliminativisme, ils sont dans une tradition qui peut se targuer de l'histoire de la République, de l'histoire de la Révolution française, des droits de l'homme, etc. Ça donne une légitimité symbolique hyper forte, en fait, en France, à cette position-là. Dès que tu parles de race, tu peux même être accusé d'être implicitement raciste, parce qu'en fait, t'es pas républicain, et en France, on a déjà dépassé tout ça, etc. Bon, ce qui est évidemment pas vrai. Mais en fait, voilà, sur la position de l'éliminativisme, ce qu'il vise, c'est pas exactement la position éliminativiste telle qu'elle s'exprime, et telle qu'elle vaut, je dirais, dans le débat public ou politique français. Donc ça, c'est une précision là-dessus. Alors, pour terminer la dernière partie de l'émission, je voudrais quand même dire quelques mots du dernier concept qu'il propose, enfin, le concept de race, parce que tous ces concepts-là, alors le concept de, je répète, hein, voilà, le concept racialiste, ça, on dégage caca, poubelle, etc., faux, vide et compagnie. Il le fait très bien, de manière très précise, détaillée, etc. Donc ça, on dégage. Celui-là, il est à dégager. Il est à dégager et il est à débusquer. Évidemment, tu parlais de porosité tout à l'heure sur tous les usages qu'on peut faire, voilà. Donc, il s'agit de clarifier à quelle réalité peut renvoyer ce concept de race, quels peuvent être ses usages neutres, du point de vue politique ou juridique, etc. En faisant gaffe, évidemment, à chaque fois, à ne pas laisser de place à cette porosité possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait. J'ai essayé de le montrer comment, pour le concept métaphysique de race qu'il propose, et le concept biologique à usage potentiellement médical qu'il fait aussi. Alors, il introduit ensuite un dernier concept de race qui, pour lui, a sa pertinence, qu'il appelle le concept de race sociale. Alors, ce concept de race sociale, là, pour le coup, celui-là, il introduit à des débats, je dirais, qui nous sont sans doute plus familiers. Parce qu'évidemment, il s'agit ici de démonter ou d'attaquer d'attaquer le racialisme en montrant que les races sont en réalité des constructions sociales et historiques, pourrait-on ajouter, qui renvoie à des pratiques sociales de discrimination à l'embauche, discrimination au crédit, discrimination au logement, discrimination face aux bavures policières, et évidemment à tout ce qu'on peut raffiner et tout ce qu'on peut préciser en termes de discrimination, et que tout ça effectivement est lié à une dimension construite socialement, sans que ça renvoie le moins du monde à la biologie ou aux gènes ou à quoi que ce soit. On est dans le champ des sciences sociales, c'est-à-dire qu'on va mesurer des discriminations de manière statistique, on est face à des faits sociaux et non pas à des faits biologiques. Alors ça, c'est évidemment plus familier dans un contexte français et européen, je dirais, très marqué par l'approche sciences sociales qui a sa légitimité. Mais du coup, ça donne un coup de barre, je dirais, sur le concept social qui va un peu à l'excès inverse, c'est-à-dire que on peut rapidement être tenté de penser que les races ne sont que une construction sociale, et ne sont que du constructivisme social, ce qui ne lui convient pas non plus, et ce qu'il pense être faux, pour les raisons que j'ai données précédemment, puisque les races existent bien, et elles ont bien une dimension biologique, qui n'est pas fondamentale, mais qui est réelle, voilà, et qui peut avoir une utilité, par exemple en médecine.
Qui n'est pas fondamentale, c'est-à-dire qu'elle n'introduit pas d'hiérarchie, elle n'introduit pas d'essence,
ni d'essence, etc. Voilà, etc. Elle a cette souplesse-là, mais n'en est pas moins réelle. Donc, en fait, il ne veut pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il pense qu'on aurait tort de réduire la race à un fait social construit. Voilà. Évidemment, du coup, ça va l'obliger à être très précis, parce que il veut, et il constate, et il n'est pas con, évidemment, il constate évidemment qu'il y a aussi une dimension de construction sociale dans le concept de race. Donc, en fait, dans le chapitre 7, là, consacré à cette notion de race sociale, il va essayer de montrer comment on peut garder, en fait, un concept social, un concept de race sociale, qui est tous les bénéfices qu'en attendent les antiracistes, c'est-à-dire qui permettent de déconstruire le racialisme, hein, en montrant que oui, c'est pas biologique, que oui, c'est pas voilà, que c'est ni héréditaire, ni éternel, ni justifié, ni fondé sur des essences, ni permettant de justifier des hiérarchies sociales, etc. Donc évidemment, il y a ce concept de race sociale permet, c'est ce que je disais un petit peu en intro, en gros, ça permet de garder tous les avantages qu'il y a à parler en termes de racisation des personnes racisées, c'est-à-dire en fait d'une identité sociale discriminante assignée par des pratiques, une institution, une société, un collectif, etc., etc. Donc parler de racisation, c'est ça, c'est dire qu'effectivement quelqu'un n'a pas les caractéristiques raciales qu'on lui prête de par sa biologie, mais qu'en fait elles lui sont imposées par des institutions, des règles, des normes, etc. Voilà. Donc, il veut évidemment garder ce concept-là, qui est très important.
Sans les faiblesses de l'éliminativisme.
Sans les faiblesses de l'éliminativisme. Et dans ce cas-là, du coup, du constructivisme pur. Puisqu'effectivement, si tu dis que le concept de race est une pure construction sociale, ça revient à défendre une forme d'éliminativisme, là, pour le coup. Et en fait, si tu veux, la critique qu'il fait de l'éliminativisme, hein, pour parler en isme, dont on a parlé précédemment, en réalité, en fait, elle est vraiment opérante lorsqu'il s'agit, voilà, dans le domaine des sciences sociales et politiques ou historiques, d'aller voir exactement en quel sens on peut parler de construction sociale de la race. Voilà, je me fais comprendre là ou pas ?
Okay. Il veut éliminer une certaine dimension. Il garde l'idée qu'il faut éliminer une certaine dimension du racisme ou du concept de race, mais c'est la racialisation.
Oui.
Ça, là-dessus, il est d'accord avec les éliminativistes.
Tout à fait.
Et donc, l'idée qu'il y aurait un concept...
C'est un antiraciste.
C'est un antiraciste. Décrivant une réalité biologique hiérarchisée qui serait la race, ça, il est OK pour l'éliminer. Cependant, il constate qu'il y a certaines différences entre les êtres humains, qu'il faut garder un concept pour décrire ces différences si l'on est moins crédible.
Oui.
Mais en fait,
et que c'est faux, en fait,
et que c'est faux, que ça marche pas,
explications, etc., etc. Oui.
Comment dire, mais aussi, éliminer la racisation.
Oui.
Ici, qui est plutôt, historique et politique.
Oui, éliminer la racisation, mais pour éliminer la racisation, il faut que tu aies un concept de racisation.
Un concept de race.
De racisation.
Et de racisation aussi, oui, bien sûr, oui. De si tu veux éliminer le racisme, oui, forcément.
Et donc, il te le faut, ce concept-là. Et c'est son concept de race sociale, c'est ça. C'est le concept qui doit permettre d'éliminer la racisation. Voilà. Et si tu n'as pas le concept, bah, tu luttes contre des moulins à vent, pour le coup. Ou dans le vide. Voilà. Donc, il te faut ce concept-là. Simplement, il te faut ce concept-là, tout en sachant que la notion de race renvoie à une réalité. Voilà. Et que ça n'est pas une pure règle, une pure convention, une pure construction sociale, etc. Bien évidemment, tu as l'histoire, bien évidemment, il y a la sociologie, bien évidemment, toutes les études situées en sciences sociales positives ont leur utilité pour t'expliquer comment la racisation raciale, en fait, se construit, se transmet, se perpétue, etc., bien entendu. Mais tu as besoin de ce concept-là, et il faut faire attention de son point de vue, c'est là où je trouve qu'il est particulièrement fin, à ce que justement l'idée selon laquelle la race serait une pure construction ne te produise pas finalement les effets inverses de ceux attendus par les antiracistes. Donc il renverse un petit peu, si tu veux, pas la charge de la preuve, mais il argumente un peu à front renversé. Voilà, c'est ce que je cherchais comme idée. C'est-à-dire qu'il te montre, il te passe en revue. Mais alors ça, c'est pareil. Je pense que c'est des débats que à peu près personne
ne connaît ni ne maîtrise dans l'université française. J'ai pas la prétention du tout de le maîtriser, mais je trouve qu'une des vertus du bouquin, c'est de te mettre en présence de ça. Par exemple, en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'en fait, dans ce concept de racisation, par exemple, il y a un truc qui est très fort chez les antiracistes, en France ou ailleurs, je dirais, politique. Voilà, dans l'antiracisme politique, t'as l'idée de retournement du stigmate. Comme on dit, voilà. Donc, se te réapproprier le stigmate, en faire une fierté, ton pouvoir est là-dessus, etc., etc. Bon, voilà. Caricature de ça, mais en même temps, le mécanisme est là. Les indigènes, par exemple, typiquement, comment tu
renverses
le stigmate. Voilà, tu renverses ce stigmate-là. Sauf qu'en fait, dans tout ça, en fait. Il ne le dit pas, évidemment, mais je pense que c'est un des usages qu'on pourrait avoir de ces analyses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas du tout sûr que cette idée de retournement de stigmate te sorte du merdier racialiste. Quelle que soit la. Donc, par exemple, important de distinguer, en fait, ce concept de race sociale, c'est pas un concept d'ethno-race, par exemple. Pourquoi c'est pas un concept d'ethno-race ? Parce que c'est pas, dans le concept de race sociale... En fait, il n'y a pas de dimension culturelle ou ethnique. La différence, par exemple, ça, c'est, je pense que c'est lié aussi au contexte américain, c'est qu'en fait, si on parle des Noirs, voilà, ça, effectivement, on a affaire à une race sociale. Et je pense que c'est parti. Il a les États-Unis et la société américaine en tête. Mais, par exemple, parmi les Noirs, un Afro-Cubain, un Martiniquais ou un Afro-Brésilien, ils n'ont pas la même histoire ethnique, de ce point de vue-là. C'est pas forcément la même langue, c'est pas forcément la même religion, c'est pas forcément la même culture. Or, une ethnie, ça a une dimension culturelle. La race sociale n'en a pas, de son point de vue. Voilà. Donc, par exemple, ce type de... Donc, ça veut dire qu'aussi, en termes militants, tu vas pas forcément t'appuyer sur ce type de caractéristiques-là pour aller déraciser, de son point de vue. Voilà. Deuxième chose, c'est pas non plus, et ça c'est très 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 important, je pense, dans le débat, son concept de race sociale ne justifie ni ne légitime ni n'explique aucune forme d'identité raciale, c'est-à-dire de revendication subjective,
oui,
personnelle, de quelque sorte que ce soit. En fait, son concept de race sociale est quelque chose qui est un concept qui a une utilité purement, pas purement, mais essentiellement descriptive. C'est-à-dire qu'il s'agit de nommer, de mesurer, de quantifier pour les critiquer des faits sociaux.
Okay.
Voilà, et des phénomènes sociaux. Mais en fait, ce concept de race sociale ne doit pas, de son point de vue, engager en fait les racisés à quoi que ce soit. Voilà. À quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, il y a une dimension identitaire, quelque chose de revendiqué, qu'on retourne le stigmate, qu'on se déclare ou qu'on se proclame indigène, etc., pour faire vite, d'une certaine manière, c'est encore donné trop au racialisme, puisque, en fait, c'est tirer des conséquences personnelles d'une assignation qu'on cherche à combattre et à dépasser, mais qui, en fait, qu'on reproduit ou qu'on perpétue d'une certaine manière. Et à partir de là, ça va l'engager sur, en fait, toujours dans ce champ, en fait, de discussion très marquée à la américaine, à se situer très précisément par rapport aux différentes formes de constructivisme social qui, en fait, ouvrent à chaque fois des programmes de recherche, y compris dans les sciences sociales, de nature un peu différente. Hein, par exemple, voilà, il y a un certain Glasgow, j'ai entendu parler, qui, lui, en fait, défend l'idée qu'en fait, on devrait conserver le concept de race sociale, mais en enlevant toute forme de discrimination. C'est une espèce de constructivisme un peu béat. Mmh. Que grâce à l'idée que les races seraient construites, on pourrait désactiver toutes les formes de... Voilà, un peu un antiracisme à la Benetton, si tu veux. Donc, il dit qu'évidemment, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire que les races sont construites pour que d'un coup, le racisme disparaisse. Après, il y a des concepts beaucoup plus fins que cela. Hein. Des concepts qui sont plus critiques, par exemple le concept de Bloom, de groupe racialisé, hein, qui permet effectivement d'avoir l'idée qu'on peut déconstruire cette idée de race, mais en fait qui manque, qui ne capture pas la dimension hiérarchique du concept de race sociale. Etc. Donc il y a comme ça toute une série de... Ça, c'est la partie qui, moi, m'a paru la plus intéressante. C'est comment, en fait, il arrive à situer, en fait, son propre concept par rapport, en fait, aux théories concurrentes, qui sont, en fait, un peu méta-scientifiques, si tu veux, mais qui, en réalité, commandent et organisent, finalement, des méthodes de recherche, voilà, et des conclusions et des enjeux dans les sciences sociales. Alors, on va s'arrêter là-dessus, mais c'est le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces concepts-là, ils ont le mérite d'être cohérents, ils ont le mérite d'être appuyés effectivement sur des données empiriques et d'être utilisables à la fois dans des sciences de la nature, la biologie, dans des applications éventuellement médicales, mais aussi dans les sciences sociales.
Très bien.
Voilà, donc c'est tout ça pour dire que voilà, c'est un livre qui me semble intéressant, même si, à mon avis, il va... Bon, sans avoir la prétention d'avoir du tout compris, mais je pense que dans un contexte qui est celui de la France, il se pourrait que la réception mette un petit peu de temps. Voilà.
Ok, donc tu nous présentais le livre « Repenser la race » de Michael Hardiman aux éditions Agone, paru en 2024. Et on vous laisse sur un morceau des Follies, « Rethink Your Face ».
Bonsoir, c'est GMC+, Yves au micro. Excusez-nous pour ce petit problème de démarrage. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 et DAB+, en direct des studios. Et donc, voilà, je m'excuse du démarrage un petit peu chaotique. Donc, n'oubliez pas de télécharger la souscription, car vous savez que nous avons une ministre de la Culture qui n'est pas du tout sympathique et qui a tendance lourdement à sucrer, non pas les fraises encore, mais en tout cas de sucrer les subventions pour les radios libres, comme on dit, ou associative d'une manière générale, et tout ce qui touche à la culture et à l'art. Donc voilà, nous avons besoin de votre soutien actif pour faire vivre cette radio, faire en sorte que le matériel fonctionne et que vos émissions préférées soient audibles. Vous avez évidemment sur le site de Radio Libertaire la possibilité d'écouter toutes les émissions en podcast pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous pouvez également la télécharger. N'oubliez pas de consulter ma page Facebook GMC+ ou Jazz Lib, hein, puisque j'anime les deux émissions, GMC+ étant Gabriel Maurice Claude et les autres. Alors pour ceux qui suivent l'agenda sur lequel l'ensemble des émissions sont concernées, enfin sur la grille des programmes, vous avez vu que je faisais allusion au bœuf et à autre chose. Donc évidemment, pour ceux qui suivent mes émissions, vous savez que je fais toujours des jeux de mots assez faciles à comprendre.